Bonjour. Donc, je vais faire aujourd'hui le dernier cours et il y aura derrière un séminaire qui va être fait par Francis Bach sur des problèmes d'optimisation, notamment sur l'optimisation avec des gradients stochastiques en lien avec les réseaux de neurones. Alors, pour ce dernier cours, les deux thèmes que je vais débloquer, c'est d'abord l'optimisation algorithmique à travers notamment les algorithmes de descente de gradient. Et puis, je vais revenir sur les problèmes de représentation, c'est-à-dire la représentation des données avec un vecteur phi de x, comme on l'a vu notamment pour les algorithmes à noyaux, dans le but de faire des classifications linéaires. Et on va voir ça à travers donc un premier regard sur les réseaux de neurones. Et ça, ce sera vraiment une toute petite introduction par rapport au cours de l'année prochaine qui sera entièrement dédié aux réseaux de neurones et notamment aux réseaux de neurones profonds. Alors, les problèmes d'optimisation, on les a vus constamment à travers le cours, à cause du fait que ce qu'on essaye de faire typiquement, c'est de minimiser un risque. Et ce risque, on le calcule en fonction d'un certain nombre de paramètres dans le cas d'un classificateur linéaire, ce sera par exemple le vecteur orthogonal au plan. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver l'oméga qui va permettre de minimiser ce risque. Alors, ce qu'on va voir, c'est que l'optimisation, ce n'est pas simplement un outil. Donc, on a vu des critères, et notamment à travers les multiplicateurs de Lagrange et de Lagrangien, mais ce n'est pas simplement un outil qui vient à la fin de l'algorithmique quand on fait de l'apprentissage, ça conditionne complètement les algorithmes d'apprentissage. Un algorithme d'apprentissage ne fait du sens que s'il peut être optimisé, et on a vu notamment que quand on fait des calculs avec des fonctions de risque, ces fonctions de risque, elles ne sont pas forcément convexes, donc toute la problématique dans la mesure du possible, va consister à essayer de trouver une convexification de cette fonction tout en contrôlant le risque sous-jacent de façon à être capable de faire la minimisation. Vous avez vu lors du séminaire la dernière fois de Gilles Weinrib que quand on commence à utiliser des algorithmes comme des descentes de gradient, notamment des descentes de gradient stochastiques, ça ouvre aussi la possibilité de faire de l'optimisation complètement distribuée. C'est-à-dire que lorsque l'on a des entités qui ont des données qui ne veulent pas partager ces données, eh bien là, elles peuvent travailler ensemble de manière à faire une optimisation conjointe en utilisant chacune ces données de manière à faire une optimisation sur la descente de gradient sans pour autant échanger ces données. Donc ça, c'est vraiment un thème très très important et que je vais commencer à aborder aujourd'hui, et puis donc on va regarder cet aspect de réseau de neurones ensuite. Alors, l'idée de la descente de gradient est quelque chose tout à fait intuitif. Quand vous avez une fonction comme ça et que vous voulez trouver le minimum, eh bien, ce que vous allez évidemment essayer de faire, c'est, si vous partez d'un point x0, c'est de bouger dans la direction de la plus grande pente, et ici en une dimension, ça veut dire qu'on va bouger progressivement dans cette direction parce que la dérivée est négative, et éventuellement le problème c'est qu'on va se retrouver bloqué sur un minima local. Alors, pour pouvoir effectivement atteindre le minima global, il va falloir garantir que on a toujours une direction de descente, et ça va nous amener à la propriété de convexité qu'on a vue la dernière fois. Alors, maintenant qu'on est en dimension multiple, comment est-ce qu'on fait le même genre de choses? On a une fonction de coût qui correspond au risque R de oméga, et ce qu'on va faire, c'est calculer l'équivalent de la dérivée, c'est-à-dire le gradient. Donc le gradient de R de oméga, c'est donc l'ensemble des dérivées partielles de R par rapport à chacune des variables, oméga étant oméga 1, oméga 2, disons en dimension d oméga d, par rapport à chacune des variables oméga k. Qu'est-ce que donne le gradient ? Le vecteur gradient, ça vous donne accès à toutes les dérivées partielles. La dérivée partielle de R par rapport à n'importe quelle direction n en dimension d, donc si je suis ici en dimension 2, j'ai deux directions, la direction, disons, oméga 1, oméga 2, dans n'importe quelle direction n comme ceci, comment est-ce que je calcule le gradient ? Eh bien, par combinaison linéaire de dérivées partielles par rapport à chacun des oméga k, et cette combinaison linéaire, elle est précisément donnée par le vecteur n. Autrement dit, la dérivée partielle, c'est tout simplement le vecteur gradient produit scalaire avec n. D'accord ? Et donc, si vous voulez avoir une dérivée partielle de module maximum, où n est un vecteur unitaire, eh bien, ce qu'il faut, c'est que la direction du vecteur gradient soit collinaire avec n. Si n est collinaire, donc est parallèle au vecteur gradient, alors à ce moment-là, ça, c'est égal au module du vecteur gradient. Et dans tous les cas, le module, ceci, va être en module toujours plus petite que le module du vecteur gradient, évidemment, parce que ça, c'est un vecteur de norme 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dérivée partielle qui va avoir une amplitude maximum, elle est dans la direction du vecteur gradient. Et si jamais vous voulez que la dérivée partielle soit positive, eh ben n va être dans la direction du vecteur gradient. Donc, autrement dit, le vecteur, le gradient, il pointe dans la direction dans laquelle la dérivée partielle va augmenter et va augmenter avec la vitesse la plus grande possible. Donc, si jamais vous voulez, au contraire, diminuer l'amplitude de votre fonction, eh ben, ce qu'il vous faut, c'est vous déplacer dans la direction opposée à la direction du vecteur gradient. Donc, si jamais on a une certaine valeur en un point oméga k, qui va être R de oméga k, et si jamais je veux réduire cette valeur, eh ben, ce qu'il faut, c'est que je me balade dans la direction du gradient de oméga k, mais non pas dans la direction du gradient, mais dans la direction opposée, de manière à ce que cette dérivée partielle soit négative. Si n est égal à moins divisé par le norme, de manière à ce moment-là, ça va vous donner ici un moins, et vous allez bien avoir une dérivée partielle qui est négative. Du coup, comment est-ce qu'on va faire un update des valeurs d'oméga k ? Eh bien, on va prendre oméga k plus 1, qui va être égal à oméga k moins le vecteur gradient fois un état. Et ça, c'est le principe de la descente de gradient. D'accord ? Donc, la descente de gradient va être exactement l'équivalent de ce que j'ai dessiné ici en une dimension, mais tout simplement va consister à se balader dans la direction dans laquelle la fonction va décroître le plus possible, qui est encore une fois donnée par la direction du vecteur gradient. Bon, si on fait ça, a priori, on va descendre jusqu'à ce qu'on soit bloqué sur un minima local. La question, c'est en supposant que on est effectivement, donc on va avoir besoin de convexité pour pouvoir assurer que le minima local soit un minima global. On va avoir besoin d'une forme de régularité pour calculer le vecteur gradient, donc c'est-à-dire qu'on va avoir au moins besoin que R soit Lipschitz. Et puis, le type de question qu'on se pose, c'est quelle est la vitesse de convergence ? À quelle vitesse est-ce que on va converger vers le minima, si jamais je suis dans une bonne situation et que je suis convexe, vers ce minima ici. Bon, ce qu'on voit bien, c'est que cette vitesse de convergence, elle va dépendre
du fait que la dérivée ne s'aplatisse pas complètement. Et le fait que la dérivée ne s'aplatisse pas complètement, ne reste pas complètement plate, ça va donc dépendre de la variation de la dérivée, autrement dit de la dérivée seconde. Donc la vitesse de convergence, on va la voir apparaître à travers les dérivées secondes, et donc en dimension multiple, ça va faire apparaître le hessien. Donc pour bien voir ça, on va prendre un exemple qui est l'exemple le plus simple d'optimisation convexe, qui est une optimisation quadratique. Donc on va regarder le cas quadratique, et ça donne vraiment l'essentiel de l'intuition sur les problèmes de descente de gradient. Donc le cas quadratique, c'est le cas où vous avez une fonction à minimiser qui est quadratique, donc avec une matrice A qui va être définie positive, A oméga plus produit scalaire de B avec oméga. Donc où la matrice A, ici, est symétrique, définie positive, c'est-à-dire qu'elle va être diagonalisable dans une base orthogonale et toutes ces valeurs propres sont positives et strictement positives. D'accord ? Donc ça va me garantir que mon problème va bien être un problème convexe. Donc, que je vais avoir un minima local. Donc si je calcule le gradient dans ce cas-là, gradient de oméga, eh bien, ça va être la dérivée partielle par rapport à chacune des variables oméga k, le produit scalaire A de oméga, produit scalaire avec A oméga, le gradient, ça va me donner A oméga, et le produit scalaire d'un vecteur fixe B avec oméga, ça va me donner plus B. D'accord ? Donc, si jamais je veux regarder un minima local, ça va être au point, une condition nécessaire évidemment, c'est que le vecteur gradient va être nul ici. Donc, la condition nécessaire va être ici que gradient ici soit égal à zéro, et donc on va obtenir un système linéaire qui va être inversible parce que la matrice A est définie positive, c'est-à-dire diagonalisable avec ses valeurs propres toutes positives, A de oméga égale moins B, donc oméga égale A moins A moins 1 de B. Ça, c'est l'optimum. Maintenant, cet optimum, on veut le calculer avec une descente de gradient. On part d'un point quelconque. Question, à quelle vitesse est-ce qu'on va converger si jamais on applique cet algorithme? Alors, pour ça, je vais regarder ce qui se passe, la différence entre oméga k et, disons, oméga k plus 1. Moins oméga étoile, c'est-à-dire l'optimum. Alors, l'algorithme de gradient, qu'est-ce qu'il calcule? Il calcule oméga k plus 1, c'est la valeur précédente, moins le déplacement eta dans la direction du vecteur gradient au point oméga k. Donc, ceci, eh bien, je peux regarder. Ce que je vais essayer de faire, c'est de relier la distance entre oméga k plus 1 moins oméga étoile et oméga k moins oméga étoile pour voir à quelle vitesse est-ce que ces distances se réduisent. Donc oméga k plus 1, c'est oméga k moins le pas du gradient de oméga k. Et puis oméga étoile, c'est un point fixe, d'accord ? Puisque en oméga étoile, ceci vaut 0, donc il ne bouge pas. Donc si je soustrais, je peux écrire ici moins oméga étoile. Et d'ailleurs, je vais remplacer, excusez-moi, le gradient par son expression ici. Je vais même le remplacer ici directement. Ici, le gradient, on a vu, c'était A oméga plus B. Donc là, je vais avoir A oméga k plus b, et donc ce que vous voyez, c'est que ceci, ça va être oméga k moins a fois eta, c'est-à-dire l'identité moins eta a fois oméga k et moins eta b. D'accord ? Donc là, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc je vais réécrire ça sous cette forme. Je vais avoir l'identité moins eta a de oméga k. Et oméga étoile, eh ben ça ne bouge pas, c'est donc identité moins a étoile oméga étoile moins eta b. Donc je peux l'écrire comme ceci. Et donc si maintenant vous regardez les distances, eh ben la norme, c'est-à-dire la distance entre le point à l'itération d'après, ça se relie à la distance à l'itération d'avant par la taille de cet opérateur, la norme de cet opérateur. Ça, je sais que c'est toujours plus petit que la norme de l'opérateur. La norme de l'opérateur, c'est le facteur d'amplification maximum du vecteur fois le vecteur, c'est-à-dire oméga k moins oméga étoile. Donc, si j'itère ceci, ce que je vois, c'est que oméga k moins oméga étoile, ça va être, si cette norme de l'opérateur, je l'appelle ρ, ça va être plus petit que ρ à la puissance k, fois le point initial, oméga 0, moins oméga étoile. Donc ce qu'on voit, c'est que ça va converger à condition que ρ soit plus petit que 1, et ça va converger exponentiellement, comme avec le facteur k ici. L'important pour que l'algorithme aille très vite vers 0, c'est que la norme de cet opérateur soit la plus petite possible. Alors, la norme de cet opérateur, c'est quoi ? Ben, A, je peux me placer dans une base orthogonale, et dans une base orthogonale, A va avoir des valeurs propres qui vont aller de sigma de la plus petite, si je les ordonne, à la plus grande. Comme ça, ça se peut écrire dans une base orthogonale, toutes les valeurs propres sont positives sous cette forme-là. Et maintenant, si je regarde identité moins état A, ça revient à rajouter 1 moins état et 1 moins état ceci. OK ? Ça, c'est ma matrice identité moins état. La norme de cette matrice, c'est la plus grande valeur propre, d'accord ? En module. Donc, ça, la norme de l'identité moins état A, alors, ça va être, si vous voulez, le maximum des 1 moins état pour toutes les valeurs propres, pour tout k. Et ça, en fait, il suffit de regarder les deux valeurs extrêmes. Ça va être le maximum de soit ceci, 1 moins état en prenant la plus petite, soit 1 moins état en prenant la plus grande. Ça dépend si état fois sigma carré est plus grand ou plus petit que 1. Donc ça, c'est les valeurs propres. C'est, excusez-moi, les valeurs propres de l'identité moins état. Donc, ce qu'on veut, c'est que cette norme soit la plus petite possible. Donc, on veut choisir le pas du gradient de manière à ce que ça converge le plus vite possible vers zéro. Et donc, on veut choisir le pas du gradient de manière à ce que le maximum de ces deux quantités soit le plus petit. Bon, bah, ce qu'on va faire pour que le maximum des deux quantités soit le plus petit, on va ajuster la valeur de état. D'accord ? Ces deux quantités, elles sont positives, et suivant la valeur de état, eh ben, le maximum, ça va être soit l'un, soit l'autre. Vous vérifiez pour qu'elles soient minimum, il faut que les deux quantités soient égales, c'est-à-dire vous allez avoir 1 moins état, pour trouver le état maximum, sigma carré min, est égal à 1 moins état sigma carré max. Et donc, vous passez de l'autre côté, vous allez avoir état égale 2
sigma carré min plus sigma carré max.
Et dans ce cas-là, eh bien, l'identité moins état A, donc ça va être le max des deux quantités qui sont égales, et ça va être égal à sigma carré 1. Je prends par exemple ici sigma carré max moins sigma carré min sur sigma carré max plus sigma carré. D'accord ? Donc ça, c'est pour le choix optimum du pas. Alors, ça va être toujours plus petit que 1, très bien, mais ce qu'on voudrait, c'est que ce soit beaucoup plus petit que 1. Je peux le réécrire ceci comme étant sigma carré max plus sigma carré min moins 2, comme ça j'ai un 1 moins 2 sigma carré min sur sigma carré max plus sigma carré min. Et ce que vous voyez, c'est que ça va être effectivement toujours plus petit que 1, mais ça va essentiellement dépendre du rapport entre la plus petite et la plus grande valeur propre. Et si le rapport est tout petit, ça va être quasiment est égal à 1. Autrement dit, l'euro étant quasiment égal à 1, à chaque pas, vous allez décroître très très doucement. Ça, sigma carré min sur sigma carré max, c'est le rapport entre le plus petit et la plus grande valeur propre de A, c'est le conditionnement de la matrice A. Donc, ce que vous voulez, c'est que son conditionnement soit le meilleur possible, c'est-à-dire soit le plus proche possible de 1, de manière à ce que cette quantité soit toute petite. D'accord ? Donc, ce qui va être très important, c'est d'avoir, si jamais je suis dans un cas purement quadratique, eh bien, c'est d'avoir votre matrice A qui, en fait, joue ici le rôle du hessien, qui va être bien conditionné. C'est-à-dire, c'est de ne pas avoir des directions dans lesquelles le hessien a des valeurs propres toutes petites et d'autres qui ont des valeurs propres très grandes. Alors, comment est-ce que ceci se généralise d'une façon générale quand vous regardez R de oméga ? Eh bien, le rôle de A, ça correspond à la matrice du hessien. C'est-à-dire l'ensemble de toutes les dérivées secondes, H de oméga. Le hessien, ça va être une matrice symétrique. Si vous êtes dans le cas elliptique, c'est le cas où effectivement le hessien est une matrice qui est définie positive, c'est-à-dire toutes ses valeurs propres sont positives et strictement positives. Eh bien, le cas précédent se généralise. Tout se place comme si on était essentiellement dans un cas quadratique, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir une descente de gradient qui va converger et qui va converger exponentiellement, et la vitesse de convergence va dépendre du rapport entre la plus petite et la plus grande valeur propre du hessien. D'accord ? Donc, encore une fois, le problème d'une descente de gradient, on va être capable d'évaluer la vitesse de décroissance à partir du hessien. Il faut que le hessien soit bien conditionné et il faut évidemment que le problème soit convexe pour garantir qu'on va converger vers un minima global. OK, alors, qu'est-ce qu'on prend comme point de vue quand on fait de l'apprentissage ? Quand on fait de l'apprentissage, il va falloir estimer le gradient. Or, le R qu'on est en train de considérer ici, c'est le risque. Et comment est-ce qu'on a calculé le risque ? Eh bien, on a calculé le risque à partir d'exemples d'entraînement. Donc, les exemples d'entraînement, ce sont les XI, YI, et typiquement, on va estimer le risque en moyennant le risque calculé sur tous les exemples d'entraînement, c'est-à-dire qu'on fait un calcul pour... Alors, je vais le faire, ici je l'ai appelé
oméga, bon, je vais garder cette variable oméga. Le risque, il va dépendre de xi, de oméga et de yi. Donc, typiquement, c'est la capacité à prédire oméga i avec les paramètres oméga à partir de xi. Et i va aller de 1 à n. Donc, par exemple, ça peut être xi produit scalaire avec oméga moins yi carré. Ça, c'est par exemple un risque de régression. On a vu les risques de classification. OK. Donc, dans ce cadre-là, ce qu'on va vouloir, c'est minimiser le risque empirique. Et pour minimiser le risque empirique, la première chose à faire, évidemment, faut l'évaluer. Et pour l'évaluer, eh bien, il va falloir faire n opérations. Il faut une certaine constante. Le problème, c'est qu'on va être dans des cas où on a typiquement énormément de données, potentiellement des centaines de milliers, voire des millions. Donc n est très grand. Ça veut dire qu'à chaque itération, il va falloir calculer le gradient de R tilde, de oméga, c'est-à-dire 1 sur n, la somme sur i des gradients de R tilde. Et donc, ça va vous demander n opérations. Il y a une stratégie différente qui va consister à observer, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de moyenner ces gradients et de bouger dans la direction de la moyenne. Pourquoi est-ce qu'on ne bougerait pas dans la direction donnée par chacun des gradients les uns après les autres? Et ça, c'est la stratégie des algorithmes de gradient stochastique. Alors, les algorithmes de gradient stochastique sont beaucoup plus efficaces d'un point de vue calcul, mais ont des propriétés de convergence qui sont beaucoup plus subtiles. Donc, l'idée du gradient stochastique, ça va être non pas à chaque fois. Alors, peut-être je vais commencer peut-être avec le batch. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un algorithme de gradient, descente de gradient par batch, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on calcule, on estime le gradient sur une moyenne sur un batch de n éléments, le n pouvant être ajusté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le batch au strict minimum, c'est-à-dire à un seul élément. C'est-à-dire que l'algorithme, au lieu d'être oméga k plus 1, donc ici, ce serait oméga k plus 1 est égal à oméga k moins eta fois gradient tilde, gradient, excusez-moi, de r tilde de oméga k, avec cette somme. Ici, ce qu'on va faire, c'est ceci égale oméga k, mais on va juste utiliser une donnée, c'est-à-dire le gradient de R tilde de xi avec le paramètre oméga et de yi. On est ici en oméga k. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on bouge les paramètres pour chacune des données. Au lieu de calculer la direction du gradient en faisant une moyenne, on calcule la direction du gradient sur chaque élément. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir un gradient qui va être très bruité. Si je remonte ici, notre but ici, en fait, c'est quoi ? C'est d'estimer le vrai risque, et le vrai risque, c'est l'espérance du risque pour n'importe quelle donnée x, le paramètre oméga et la réponse y. Et ce qu'on voudrait vraiment, c'est le but de idéal qu'on a vu en classification, c'est de minimiser R, le vrai risque moyen. Et ce qu'on fait en pratique, parce qu'on n'a pas accès à ce vrai risque, on minimise le risque empirique. Le risque empirique, c'est une estimation bruitée du vrai risque,
Et pour minimiser cette estimation de bruité, on prend le gradient. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de faire essentiellement la même chose, sauf que maintenant, le risque R de oméga, il est non pas estimé avec 1 sur une moyenne de R risque comme ceci, mais il est estimé par une seule valeur du risque. Donc autrement dit, c'est une estimation extraordinairement bruitée. Alors ce qui reste vrai, c'est que c'est une estimation ici non biaisée, c'est-à-dire que la valeur moyenne du risque en R de X pour le paramètre oméga relativement Y, c'est bien ce que je veux. C'est-à-dire que en moyenne, cette quantité, ça va être bien le bon gradient. Si je mets maintenant le gradient, l'espérance du gradient ici, ça va être bien le gradient ici. Seulement, cette direction, elle va être extraordinairement bruitée. La question est donc, quel est potentiellement l'avantage d'utiliser ceci plutôt que de faire la moyenne sur n valeurs directement ? Intuitivement, l'idée est la suivante. Si jamais vos n exemples sont redondants, l'extrême de n exemples redondants, c'est que, en fait, à l'intérieur, vous avez des groupes d'exemples qui sont en fait tous identiques. C'est-à-dire que vous avez une famille d'exemples et en fait, vous êtes dans un cas où vous avez pris, par exemple, des images et qui se répètent. Donc ça, c'est un cas dégénéré. Si vous appliquez l'algorithme du gradient, quand vous calculez votre moyenne, comme vous avez des images identiques, vous allez faire des calculs qui ne servent à rien parce que vous allez moyenner des images qui sont identiques. Si vous vous placez dans le cas de l'algorithme du gradient stochastique. Bien, l'avantage, c'est que certes, vous avez des images identiques, mais vous allez les utiliser à différentes étapes du gradient. Et donc, vous n'allez pas souffrir du fait que, éventuellement, une partie de vos exemples sont complètement redondants par rapport à l'autre partie des exemples. Parce que vous ne calculez pas les moyennes du gradient en un point donné. À chaque fois, vous updatez votre paramètre et vous calculez la direction du gradient à un pas qui est à un point qui est après. Donc vous n'avez pas ce problème-là. Le deuxième aspect, le deuxième type d'argument qui permet d'expliquer l'avantage du gradient stochastique, c'est le fait que quand vous faites une optimisation comme ceci, vous avez éventuellement trop de données. Et donc trop de données, encore une fois, indirectement, c'est un phénomène de redondance. Au lieu de calculer la moyenne qui ne vous sert à rien parce que vous avez déjà une convergence très rapide du gradient, vous allez calculer le gradient à des pas qui sont différents. Alors, si on regarde les courbes typiques de décroissance d'un algorithme de gradient en fonction de K, qui est le nombre d'itérations, ce qu'on voit, c'est que l'algorithme de gradient stochastique, c'est K de nombre d'itérations, je ne devrais pas l'écrire comme ça, parce que ça, c'est pour le gradient stochastique. Dans le cas où on fait une descente de gradient, comme on fait n opérations, ici, on va porter K divisé par n, de manière à ce que ça corresponde à chaque évaluation de gradient. Donc, dans le premier cas, on observe que ça va très vite pour le gradient stochastique, et puis ensuite, la décroissance, elle est très lente. Ça, c'est le gradient stochastique. Quand vous travaillez par batch, c'est-à-dire quand vous faites une moyenne des gradients et vous vous déplacez dans la direction de la moyenne des gradients, on observe que la décroissance est beaucoup plus lente au départ, et après, ça va beaucoup plus vite parce que après, vous êtes dans le régime exponentiel. Les deux résultats théoriques qui vont être démontrés, je pense en partie par Francis tout à l'heure, sont les suivants. Dans le cas du gradient stochastique, on a une décroissance lente qui est essentiellement asymptotique due au fait qu'il y a beaucoup de bruit dans l'estimation du gradient. Et donc, on va voir que le gradient, la vitesse de décroissance du gradient du risque empirique en oméga k moins le minimum du gradient empirique sur oméga, ça, en moyenne, ça va décroître comme 1 sur k. C'est-à-dire c'est très lent asymptotiquement à cause du bruit. Ce qui va se passer, en fait, c'est que quand vous êtes en oméga 0, que vous êtes très loin du oméga étoile, même si votre gradient est bruité, vous allez grosso modo vous diriger dans la bonne direction. Donc au départ, vous allez vous diriger grosso modo dans la bonne direction, mais c'est à la fin, quand vous commencez à être proche, que le fait de ne pas avoir le bon gradient fait que vous allez mettre beaucoup de temps à converger vers le point. Alors que si vous avez un gradient qui est précis, ben vous allez très régulièrement vous diriger dans la bonne direction. Simplement, chaque étape de gradient demande n fois plus d'opérations. Du coup, en termes de nombre d'évaluations de gradient de la quantité élémentaire, au début, vous allez être beaucoup plus inefficace que cette version bruitée, mais à la fin, vous allez être beaucoup plus efficace. Et ça, c'est le résultat qu'on a essentiellement montré dans le cas qui est fortement convexe. Le cas fortement convexe, c'est le cas où essentiellement vous avez un Hessien qui se comporte bien au voisinage du minima, c'est-à-dire un Hessien qui n'est pas dégénéré. Dans ce cas-là, ça c'est dans le cas gradient par batch, c'est-à-dire on évalue le gradient en faisant une moyenne, vous allez avoir que ceci, oméga k moins le min, ça décroît, comme ce qu'on a vu, un rho à la puissance k avec un rho strictement plus petit que 1. C'est-à-dire qu'on a une décroissance exponentielle. Mais encore une fois, chaque étape de cette croissance exponentielle demande n opérations, et n, c'est un nombre qui est énorme. Si je veux une erreur qui est ici epsilon, eh bien, le nombre d'itérations que j'ai besoin d'utiliser ici, k, il va être en epsilon moins 1. Si je veux ceci en epsilon, eh bien, le nombre d'itérations k, ça va être log de epsilon. Seulement, j'ai n opérations, n fois plus de calculs de gradient. Donc, si je compte ça en termes de nombre de calculs de gradient pour le comparer par rapport à ça, c'est ça fois n. Or, n fois log de epsilon, ça peut être beaucoup plus grand que epsilon moins 1 quand n est très grand. Et en fait, typiquement, ça va être le cas au départ, où epsilon n'est pas du tout petit. Donc, encore une fois, on se retrouve dans une situation où on a un premier algorithme qui va très vite au départ, mais très lentement ensuite, et un autre algorithme qui va lentement, et puis ensuite, qui va relativement beaucoup plus vite. Donc on sent bien que ce qu'on a envie de faire pour résoudre le problème, c'est-à-dire avoir le meilleur des deux mondes, c'est commencer comme ça, et se diriger dans cette direction après. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a envie que le gradient soit un peu débruité, et on va voir le type de stratégie à travers l'exposé de Francis pour faire ce genre de choses. Donc, cet algorithme de descente de gradient, on le retrouve absolument partout, et on verra ça beaucoup plus en détail pour comprendre de façon plus fine les propriétés stochastiques de convergence de cet algorithme. En particulier, il a une influence très importante dans tout ce qui est optimisation des réseaux de neurones, parce que c'est l'algorithme de base qu'on utilise pour optimiser les réseaux de neurones. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire dans cette introduction de cette première année sur les algorithmes de gradient. C'est un des piliers des algorithmes d'optimisation en apprentissage, et il y a beaucoup de raffinements autour de ça. Notamment, ici, j'ai choisi un paramètre état, ici, qui est le paramètre de descente de gradient comme étant fixe. En pratique, en fait, dans les algorithmes, les gens l'update. Pourquoi les gens l'update ? Parce que je l'ai choisi fixe, parce que la matrice A, c'était une matrice linéaire, les valeurs propres ne changent pas. Si vous êtes dans le cas général où A, c'est remplacé par le hessien, qui a priori n'a aucune raison d'être une constante pour tout oméga, eh bien, vous avez envie intuitivement de vous adapter localement le état aux valeurs propres locales du hessien. Donc en pratique, le état, eh bien, il va dépendre du nombre d'itérations. Ça s'appelle souvent, en anglais, « learning rate », dans le cadre de l'apprentissage. Et donc, il y a tout un art de fixer ces paramètres pour avoir un algorithme qui converge le plus vite possible. Et derrière cet art, il y a quand même quelques résultats mathématiques qu'on verra plutôt l'année prochaine. Voilà. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous donner une rapide introduction sur les réseaux de neurones qui permettra notamment de donner la base pour le séminaire de Francis Bach et aussi donner un peu un overview, une vue un peu générale des types de questions qu'on va aborder l'année prochaine dans le prochain cours. Donc, le deuxième problème sur lequel maintenant je vais rentrer, c'est sur la problématique de représentation. D'accord ? Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'était cette approche par apprentissage de noyaux. Donc, l'approche par apprentissage de noyaux a quelque chose de très efficace parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle sépare d'un côté le calcul de la représentation, phi de x, avec le calcul, disons, du classificateur. Et le classificateur, ou l'algorithme de régression, si on veut estimer une valeur qui est réelle, se fait simplement de façon linéaire. Les deux cas se font de façon linéaire, c'est-à-dire en calculant les paramètres qui sont ici un vecteur W qui vont projeter le phi de x de manière linéaire comme ceci. Et donc on va faire un calcul, une approximation de la fonction, ou je vais l'écrire avec un H, sous cette forme. Donc ce sont des opérateurs linéaires. Donc d'un côté, le phi de x, il a été choisi. A priori, on a vu qu'on pouvait par exemple prendre pour le phi de x un noyau gaussien. Dans ce cas-là, ça va s'écrire sous la forme x moins x prime au carré sur 2 sigma carré. Ça peut être un noyau polynomial, ça peut être encore autre chose, mais c'est fixé a priori. Immédiatement se pose la question, ok, mais comment on va choisir le phi de x ? Comment on va choisir le phi de x ? Soit on a une information assez subtile sur la nature des données qui nous permet de le faire, et ça, c'est quelque chose que les gens ont essayé d'analyser, et ça n'a pas mené à des résultats très forts. C'est-à-dire que, soit encore une fois, on peut le calculer sous cette forme, soit on peut le calculer sous la forme du noyau, c'est-à-dire définir le cas xx' sous... Excusez-moi, j'ai écrit une grosse erreur là. Ça, c'est pas phi de x, c'est k de xx prime. Ça, c'est phi de x produit scalaire avec phi de x prime. Ça, c'est le noyau gaussien. Donc, on peut l'exprimer, le phi, soit à travers le noyau, parce qu'on a vu que c'est comme ça que ça apparaissait au moment du calcul du classificateur, soit on peut essayer de spécifier le phi de x directement. L'idée du réseau de neurones, c'est d'intégrer les deux. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de séparer d'un côté phi de x et le classificateur linéaire, eh ben, on va les mettre l'un derrière l'autre, on va mettre notre classificateur linéaire et on va essayer d'optimiser toute la boîte. Maintenant, le phi de x, sous quelle forme on va le prendre? Eh bien, on va le prendre sous forme d'une cascade de, essentiellement, classificateurs par hyperplan. C'est-à-dire que la nature de ce qu'on a ici, eh bien, on va le répéter ici et on va optimiser le tout. Donc, maintenant, je vais prendre un peu le point de vue des neurones tels qu'ils ont été introduits initialement et je vais le mettre en regard avec cette observation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un neurone artificiel ? Un neurone artificiel, c'est un petit opérateur tout simple qui va prendre en entrée un certain nombre de variables. Chacune de ces variables, il va les multiplier par un poids, oméga m. Il va faire la somme. Donc ici, à la sortie, vous avez tout simplement la somme des variables multipliées par les poids. Et puis ensuite, vous passez ça à travers une non-linéarité que je vais ici appeler rho, donc à la sortie, et vous aurez un biais, ce qui fait que la sortie, ça va être typiquement la somme des oméga k xk plus b. Donc autrement dit, ça fait tout simplement un produit scalaire entre le vecteur w qui est le vecteur de tous les poids, là j'en ai m, avec x plus b. Donc un neurone, ça ressemble violemment à un classificateur, ou en tout cas une régression linéaire, modulo ce rho. Qu'est-ce que c'est que le rho ? Le rho, donc, c'est la non-linéarité. On va avoir beaucoup de choix possibles, on va le voir sur le rho, notamment les premiers qui ont été considérés sont ce qu'on appelle des sigmoïdes. Donc une sigmoïde, c'est une fonction régulière qui va passer de 0 à 1, comme ceci, de façon c'est régulière. On peut faire ça avec une arctangente, par exemple. Et on va mettre ici 1. Ça, c'est alpha, rho de alpha. D'accord ? Donc, ça veut dire que la réponse, elle va être typiquement 0 lorsque alpha est négatif, et dans ce cas-là, elle va être quasiment être égale à 1 lorsque alpha, c'est-à-dire cette quantité-là, est grande. C'est-à-dire, ça va effectuer, grosso modo, une classification binaire. Quand ceci, donc ceci, ça vous, c'est quoi ? C'est en fait un hyperplan qui va diviser l'espace des données en deux. Ça, c'est le W, le vecteur. Le fait que W produit scalaire avec X plus B est positif, ça veut dire que vous êtes au-dessus de l'hyperplan. Le fait que ceci soit négatif, ça veut dire que vous êtes au-dessous de l'hyperplan. Si vous êtes au-dessous de l'hyperplan, c'est-à-dire que cette quantité ici, alpha, est négatif, eh bien, la sortie, c'est 0. Donc, grosso modo, vous vous retrouvez dans la classe 0. Si vous êtes au-dessus de l'hyperplan, donc la quantité alpha est positive, et bien le rho va vous renvoyer un 1. Donc ça vous dit que, grosso modo, votre neurone, il se comporte comme un classificateur avec une zone où il va passer régulièrement de 0 à 1, avec un classificateur binaire. Ça prend l'espace, ça le divise en deux, à gauche, classe 0, à droite, classe 1. Ça, c'est dans le cas d'une sigmoïde. Autre type de non-linéarité qu'on va beaucoup utiliser, notamment avec les réseaux de neurones profonds, c'est ce qu'on appelle un relu. Dans ce cas-là, ça va être le max de 0 et de alpha. C'est ce qu'on appelle un rectificateur, rectificateur linear unit. Et donc, la courbe, elle a cette tête-là. Quand alpha est négatif, ça vaut 0. Et quand alpha est positif, ça vaut alpha. D'accord ? Donc, grosso modo, la réponse, quand je suis en dessous, de l'autre côté de mon hyperplan, c'est 0. Et quand je suis de ce côté de l'hyperplan, c'est une régression linéaire. D'accord ? Mais on voit encore que le principe d'un neurone, c'est de couper l'espace en deux avec un vecteur W et le B. Le vecteur W ne correspond au poids de chacun des liens du neurone et le B, c'est le biais. D'accord ? Donc on retrouve bien ce qu'on a ici. Alors, oui, mais on n'a pas le phi de X. Alors, le phi de X, d'où il vient ? Il vient du fait que, en fait, on va prendre ce neurone et on le va mettre dans un réseau et on va cascader ça. Donc, on va maintenant définir un réseau. Donc, l'idée, c'est que j'ai mon entrée qui est ici. Alors, je vais la symboliser comme ceci. Ça, c'est tous les points x1, etc., xd. Je vais le faire rentrer. Donc, le neurone... Ça, je vais représenter comme donc vous avez vos comme un rond et hop, vous avez une sortie. Donc ça s'appelle en quelque un neurone par analogie à la biologie parce que ça fait penser aux dendrites d'un neurone et le neurone a une sortie, c'est l'axone qui va se brancher sur un autre neurone. Donc ça, vous avez. Alors on va mettre les neurones sous forme de couches, donc ils sont comme ça. Donc vous avez un certain nombre d'entrées qui vont arriver sur chaque neurone. Ça, c'est les données qui arrivent dans les neurones. Et puis les neurones, elles vont avoir une sortie. Ça, c'est la sortie du neurone. D'accord ? Je vais vous le mettre sous forme de croix. Ça, c'est la sortie. D'accord ? C'est la valeur que vous avez ici. Maintenant, cette sortie... on va la faire rentrer à nouveau dans toute une série de neurones. Vous avez une deuxième couche. Et donc, ils vont rentrer comme ceci, etc., avec une architecture que vous allez choisir. Chacun de ces neurones va avoir une sortie. Et puis, sur la dernière couche, tous ces neurones vont être intégrés avec une combinaison linéaire finale et une non-linéarité pour vous donner votre sortie qui va être l'estimation de ce que vous vouliez avoir, le Y. D'accord ? Si vous voyez ça comme le vecteur W final plus B, si maintenant vous regardez la sortie juste avant et que je l'appelle phi de X, ça, c'est ce grand vecteur. D'accord ? Et bien, qu'est-ce que vous allez calculer ? Vous allez calculer un y tilde qui va être le rho de phi de x produit scalaire avec oméga plus b. D'accord ? Donc, en fait, le réseau de neurones, il va construire une représentation et il va faire une régression linéaire finale avec éventuellement une classification ou quelque chose qui va être purement linéaire. Donc, l'enjeu, évidemment, dans le réseau de neurones, ça va être d'apprendre les poids, mais pas simplement le dernier poids, comme on a tendance à le faire lorsqu'on fixe le phi de x et on fait une régression linéaire, mais les poids de tous les neurones. Et si on fait une optimisation des poids de tous les neurones, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train tout simplement d'apprendre la représentation simultanément avec la régression finale. Et donc ce que vous voyez, c'est que réseau de neurones, c'est une architecture qui permet d'adresser ce problème qui consiste à apprendre la représentation par opposition à la fixer à l'avance. Donc on sent bien que le problème va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on a vu dans le cas de la classification à noyaux, notamment parce que dans ce cas-là, le problème était convexe à la fin, puisqu'il suffisait de faire une régression linéaire. Ici, le problème d'optimisation, qui va rester le même, notre but, ça va être toujours de minimiser le risque, simplement maintenant, le risque, il va être paramétrisé par tous les poids du réseau. Alors, je vais vous donner une expression le plus analytique de ce que fait ce réseau. Si vous regardez le lien entre la première et la deuxième couche, donc là vous avez l'entrée et là vous avez la sortie. Et si ça je l'appelle X, je peux appeler celui-là X1, et puis la couche d'après, je peux avoir autant de couches que je veux, je peux l'appeler X2. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que X1, c'est un opérateur qui est complètement linéaire, qui va être appliqué sur chacun des entrées, et puis ensuite le rho. Donc en fait, le X1, j'ai pris le X, j'ai appliqué un opérateur linéaire, c'est une matrice qui m'a calculé la combinaison linéaire, et puis ensuite, j'ai appliqué le biais et la non-linéarité. Donc, X1 se calcule comme ceci. Un opérateur linéaire qui vous donne un vecteur qui va être transformé par la non-linéarité B plus le biais. De la même manière, X2, il est obtenu en transformant l'entrée X1 avec un deuxième opérateur linéaire W2, X1, là je vais appeler le biais B1, et il va rajouter un deuxième biais, ρ. Donc le biais ici, il peut être différent, il va être différent pour chacun des neurones. Donc le biais, il faut voir ça comme un, ici c'est un vecteur, d'accord? W1x, c'est un vecteur, c'est la le vecteur qui est, en fait le W1, si j'appelle les neurones ici, je les indexe par un paramètre petit m, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai calculé avec une entrée x un produit scalaire avec un Wn plus un Bm. Et j'ai fait ça pour tous mes neurones. Donc m, il va être plus petit que, disons, m1, c'est le nombre de neurones de la couche 1. Ceci, ça consiste à prendre x, faire une opération linéaire plus le biais pour toutes les sorties. Et c'est ça que j'ai écrit sous forme d'un vecteur W1x plus un vecteur B1. Je vais l'écrire comme ceci. D'accord? Donc encore une fois, chaque neurone calcule une combinaison linéaire sous cette forme-là. Chaque neurone a ses poids spécifiques, c'est-à-dire a un vecteur W qui est spécifique, qui va être différent. Si je prends, vous pouvez voir ceci, en fait, comme étant, si j'appelle W1 la matrice, ça c'est le vecteur X, ce sont en fait les lignes de ma matrice. D'accord? Ça c'est le X, et les W, c'est les lignes de la matrice W1. Et le B, encore une fois, c'est l'ensemble des biais. Donc en fait, vous avez une cascade d'opérations avec des matrices plus un biais, des matrices plus un biais. La structure des matrices va dépendre de l'architecture du réseau. Et donc, à la sortie, vous allez avoir une sortie Y tilde qui va pouvoir s'écrire comme... Alors, vous allez avoir une cascade de ces opérations, ρ de W1, X l'entrée plus B1,
qui va être lui-même transformé par une deuxième matrice W2 plus B2 rho, qui va être lui-même transformé par une troisième matrice éventuellement plus B3, etc. Jusqu'à le nombre de couches. Donc ça, c'est l'architecture complètement générale. Cette architecture générale, si vous l'utilisez telle qu'elle, avec beaucoup de couches, on est incapable d'apprendre. Ce qui a vraiment changé de façon importante, disons dans les années 2000, et notamment à travers le travail de Yann Lequin et d'autres comme Bengio, Hinton, etc., ça a été d'essayer de comprendre comment construire des architectures qui vont utiliser beaucoup moins de liens, donc une forme de redondance à travers ces liens, de manière à avoir des matrices ici beaucoup plus structurées. Et pour faire ça, on utilise notamment des convolutions en utilisant des informations a priori sur le signal X. Par exemple, quand vous avez une image, le fait que, a priori, vous n'avez pas d'informations sur les positions, donc il n'y a pas de raison de traiter ce qui se passe ici différemment de ce qui se passe ici ou ici, et donc d'utiliser le même type d'opérateur partout, ce qui amène vers des convolutions. Maintenant, il y a un cas particulier de réseau de neurones qu'on arrive assez bien à analyser, c'est lorsqu'il existe une unique couche cachée. Et je voudrais me concentrer sur ce cas-là pour finir le cours. Donc, il y a un cas qui est assez simple, pas très simple, mais disons qu'on comprend beaucoup, beaucoup mieux. C'est le cas où on a une seule couche cachée. Donc dans ce cas-là, vous allez simplement avoir votre entrée x1, xd qui va rentrer dans une famille de neurones comme ceci, qui va vous donner une sortie et cette sortie est recombinée comme ceci pour vous donner le y-tilde. Autrement dit, le y-tilde il va s'écrire comme la première combinaison, c'est-à-dire que les entrées X, vous allez faire des combinaisons pour chacun des neurones avec des oméga K. Alors cette fois-ci, j'ai un KM XM. Ça, vous allez faire la somme sur M allant ici de 1 à D plus un biais qui va dépendre ici de K. Donc ça, c'est l'opération de un seul neurone. Ensuite, vous avez votre non-linéarité. Et maintenant, vous allez refaire une dernière combinaison. Alors, je vais prendre un petit peu de place. La dernière combinaison, ça va vous faire une somme ici. Les derniers poids, je vais les appeler différemment des W pour que ce soit un peu plus simple. Je vais les appeler des alpha. Donc vous allez faire, pour le neurone K, vous allez appliquer un poids alpha K. Vous allez avoir un biais final. Ça, c'est le biais du dernier neurone. De K allant de 1 au nombre de neurones, donc je vais appeler M, ici le nombre de neurones, de 1 à M, vous avez une non-linéarité finale, et ça, ça vous donne votre sortie. D'accord ? Donc, ceci, c'est l'opération effectuée par chacun des neurones ici. Le nombre de neurones que vous avez, c'est M. Pour chaque neurone, chaque sortie de chaque neurone, vous le remultipliez par un poids, qui a un poids alpha k, vous faites cette combinaison linéaire, vous rajoutez un biais, vous mettez votre dernière non-linéarité, et vous allez le h-tilde. Quel genre de question on va se poser sur ces réseaux de neurones? Et ça va être le cas pour les réseaux de neurones profond ou pour cela, sauf que là, ça va être un peu plus facile pour faire l'analyse. Le premier type de question, c'est de savoir quel type de fonction peuvent être approximées. Alors, je vais reposer cette question dans le cadre du cours. Ce qu'on a vu, c'est que quand on fait un apprentissage, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on définit une classe d'approximation. Cette classe d'approximation, c'est un ensemble de fonctions H qui sont définies par les paramètres de l'algorithme. D'accord ? Et typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une minimisation d'un risque empirique, éventuellement qui va être régularisé. Donc, qui éventuellement peut être, on a vu, régularisé. Ce risque empirique, ça va être le R tilde, disons, qui peut dépendre de H, de oméga, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une minimisation de ceci sur tous les éléments. Évidemment, la question, c'est de savoir est-ce que la classe est suffisamment grande pour qu'il y ait à l'intérieur une fonction qui va faire le job, c'est-à-dire qui va bien approximer le y, qui, lui, et une certaine fonction de x, est-ce qu'on peut trouver un h tel que le y tilde est proche de la bonne réponse y. Autrement dit, est-ce qu'on peut trouver une fonction h qui va être proche de la fonction f? Ça, c'est le problème d'approximation. Il faut pour ça que la classe soit assez grande pour pouvoir approximer n'importe quelle fonction. Le problème qu'on a vu, c'est qu'évidemment, si la classe H est trop grande, eh bien, on va avoir un problème d'estimation, c'est-à-dire on va avoir énormément de fluctuations statistiques, et en fait, quand on va minimiser le risque empirique, on ne va pas avoir une bonne estimation du risque moyen. Ici, la classe, elle est définie par quoi ? Ben ici, la classe, dans un cas d'un réseau de neurones à deux couches, elle est définie par tous ces paramètres, les poids des réseaux et les biais. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on a suffisamment de flexibilité pour pouvoir approximer une grande classe de fonctions et donc une grande classe de problèmes avec un tel réseau. Et on va avoir un petit risque d'estimation, on l'a vu, si on n'a pas trop de paramètres. Autrement dit, la vraie question, c'est est-ce qu'avec un nombre relativement réduit de paramètres, une architecture comme ça permet de bien approximer un peu n'importe quelle fonction, en tout cas si la fonction a suffisamment de régularité. Cette question-là, on peut y répondre assez bien dans le cas du réseau de neurones à deux couches. Mais il va falloir se méfier un peu de la réponse pour ne pas être trompé par sa simplicité. Donc, dans le cas d'un réseau de neurones à deux couches, on construit des fonctions H que j'ai écrit là-bas, qui sont sous la forme une non-linéarité finale, ensuite une combinaison linéaire finale des alpha k, et puis qui est elle-même une fonction d'une non-linéarité pour chacun des neurones, somme des wkm, xm, plus bk, somme sur m, et puis il y a un biais final. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va être pratiquement égal
à la valeur de la fonction f de x qu'on voudrait approximer. Et une autre façon de poser la question, c'est quel est le type de régularité qu'il va falloir avoir sur f de x pour que, effectivement, on puisse avoir une bonne approximation de ce style. Alors observez, là j'ai une non-linéarité, un plus b. Cette non-linéarité, en fait, je peux m'en débarrasser. C'est-à-dire, je vais me débarrasser de cette non-linéarité. Pourquoi ? Parce que, en fait, elle ne joue pratiquement aucun rôle. D'une certaine manière, je pourrais la mettre de l'autre côté, et à ce moment-là, elle disparaît. En fait, ce qu'on va faire, c'est que la non-linéarité finale, elle peut éventuellement numériquement être utile pour garantir que les valeurs de façon sont entre deux bornes, mais on peut tout faire avec ce qui est à l'intérieur. Le plus B, c'est une constante additive, je peux la mettre dedans. Donc, ce que je vais vraiment regarder, c'est la capacité d'approximation. Donc, ces deux choses, finalement, elles ne jouent pratiquement aucun rôle. C'est la capacité d'approximation de cette combinaison linéaire. Ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, ceci. Et la question que je me pose, c'est quelles sont les classes de fonctions qui peuvent s'écrire comme ça. Alors ça, ces classes de fonctions, en fait, elles ne sont pas trop difficiles à analyser. Je vais écrire, cette somme avec un produit scalaire. Ce sera plus facile. Ça, c'est oméga k produit scalaire avec x plus bk. Ça, c'est rho. Ça, c'est la somme sur k des alpha k. Ceci, h de x. Donc, la question que les gens se sont posées, c'est si jamais je laisse libre ces vecteurs wk, les billets bk et les alpha k, est-ce que je peux approximer n'importe quelle fonction ? Je vais vous donner le résultat et je vais vous expliquer d'où il vient et pourquoi. Le résultat, en apparence, il est spectaculaire parce que ce qu'il va dire, c'est que n'importe quel type de fonction, pour peu qu'elle soit continue, peut être approximée par ce genre d'architecture. Alors, le théorème, et ce théorème on le démontrera l'année prochaine, mais je vais juste vous donner une idée d'où il sort. C'est que si la non-linéarité est une fonction continue, donc c'est quelque chose qui est très faible comme condition, et que ce n'est pas un polynôme. Alors, si f est elle-même est une fonction qui est continue, donc dans RD, elle va pouvoir être approximable avec une précision arbitraire par un réseau de neurones de ce style. Ça veut dire quoi ? Sur un compact, ça veut dire que pour toute erreur epsilon, donc pour tout f qui appartient aux fonctions qui sont continues dans RD, pour n'importe quel compact dans RD, donc ce que je vais faire, c'est une approximation sur des ensembles qui sont compacts dans RD, alors il existe un H qui est un réseau à deux couches. Tel que, si je regarde l'erreur maximum pour tout x appartenant à ce compact entre la fonction f de x et h de x, cette erreur va être plus petite que epsilon. D'accord ? Donc, ce résultat, qui est aussi appelé un résultat d'approximation universelle des réseaux de neurones à une couche cachée, dit essentiellement que n'importe quelle fonction, pourvu qu'elle soit continue, et le fait d'être continue, c'est vraiment une propriété très très faible, surtout en grande dimension, eh bien, peut être approximée sous cette forme, c'est-à-dire sous la forme d'un réseau de neurones. Donc, autrement dit, n'importe quelle fonction peut être écrite sous la forme d'une combinaison linéaire comme ceci. Alors, pourquoi est-ce que ça ne va pas résoudre notre problème ? Ça ne va pas résoudre notre problème parce que ce qu'il nous faut, ce n'est pas simplement pouvoir être approximé par une fonction H, il nous faut pouvoir être approximé avec une fonction H avec un nombre de neurones qui n'explose pas exponentiellement avec la dimension D. Autrement dit, ce qu'il nous faut, c'est ne pas souffrir à nouveau de la malédiction de la dimensionnalité, parce que si le nombre de neurones explose exponentiellement avec la dimensionnalité, alors pour calculer les meilleurs poids, le nombre d'exemples dont vous allez avoir besoin va eux-mêmes devoir grandir comme une exponentielle de D. Pour se rendre compte d'où vient cet exemple, je vais vous prendre un rho qui est très simple et vous allez reconnaître immédiatement les séries de Fourier. Et vous allez voir pourquoi, en fait, ce résultat n'est pas aussi puissant qu'il en a l'air, bien que, encore une fois, ce soit un joli résultat qu'il a fallu quand même démontrer. Alors, ces résultats, ils ont été le résultat d'une série d'itérations d'un certain nombre de mathématiciens que je citerai, qui essentiellement c'est entre les années 89 et 93. Le dernier résultat ici a été démontré notamment par Pincus en 93, mais il y a eu toute une série de résultats intermédiaires qui ont amené à ça. Ce que je vais faire, c'est prendre un cas particulier pour sentir d'où vient ce résultat. Je vais vous prendre le cas où rho de alpha, c'est e puissance i alpha, où on peut prendre de façon similaire cosinus alpha. D'accord ? Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que ça ? H de x, c'est la somme de k allant de 1 à m de alpha k. Je vais prendre le cas complexe. E puissance i, oméga k, x plus bk. D'accord ? Et donc, si je sors le bk, ça me donne somme sur k des alpha k e puissance i bk fois e puissance i, produit scalaire entre oméga k et x. D'accord ? Ça, c'est un nombre, fois ceci. Si j'avais pris le cosinus, j'aurais la même chose, mais j'aurais ici le cosinus oméga k x plus bk. Ça ressemble furieusement à une série de Fourier. En particulier, si jamais je suppose que je suis effectivement sur un compact K, le compact K, je peux le mettre dans une boîte, et puis peu importe la taille de la boîte, je vais prendre 0,1 pour que ce soit plus simple, en dimension D. Donc je vais vous prendre l'exemple ici d'un compact K qui est 0,1 en dimension D. Et donc mon problème, c'est d'approximer f de x pour x là-dedans. Il y a une façon de développer une fonction dans un ensemble comme ça, 0,1 en dimension D, c'est tout simplement d'écrire la série de Fourier. Alors là, je vais l'écrire avec un H pour me mettre dans la classe. La série de Fourier, elle me dit que n'importe quelle fonction h définie là-dessus, je peux le décomposer. Oh, remarque, je l'ai laissé f, excusez-moi. Je peux le décomposer comme une somme des coefficients de Fourier. Comme je suis sur 0,1, eh ben, les coefficients de Fourier, ça va être les e puissance i de pi k produit scalaire avec. Oh, je vais l'appeler, excusez-moi, pour faire pareil. Oméga k produit scalaire avec x. Le coefficient de Fourier, ça va être un certain coefficient complexe. Et les oméga k, Eh bien, c'est un élément de Z, D. D'accord ? Donc, n'importe quelle fonction dans 0, 1, dimension D, peut s'écrire comme une série de Fourier, c'est une exponentielle qui va dépendre de la fréquence produit scalaire avec X. Maintenant, si F a un tout petit peu de régularité, ben, qu'est-ce que vous savez ? Vous savez qu'il va y avoir une décroissance des coefficients de Fourier, donc vous pouvez les couper. Donc, au lieu de prendre tous les oméga k, vous allez prendre simplement oméga k, donc ça va être, oméga k c'est un entier, qui va être entre une constante, donc entre 0 et c. Donc autrement dit, les fréquences, vous allez les limiter. Pourquoi vous allez les limiter? Comme on l'a vu pour la série de Fourier, parce que si votre fonction f est un peu régulière, vous n'avez pas besoin de garder les hautes fréquences. Ok. Combien de fréquences il va vous falloir garder là-dedans? Eh bien, comme vos oméga k, c'est des entiers, et chacun des entiers est plus petit que c, eh bien, le nombre de fréquences, c'est le nombre de oméga k, il va se comporter comme valeur absolue, donc comme c, à la puissance d. Donc, autrement dit, ce que vous avez fait, c'est que vous avez gardé un cube, mais en dimension d, et le nombre de fréquences, il augmente exponentiellement. Donc, si je regarde ce théorème là-haut, il me dit quoi ? Ou plutôt là-bas, et tel qu'il est écrit ici. Il me dit n'importe quelle fonction h de x peut être écrite. Alors ça, on verra ça plus en détail, c'est ce qu'on appelle des fonctions Ridge. C'est-à-dire c'est des fonctions, comme j'ai fait un produit scalaire, ne dépend plus que d'une seule variable. Peut s'écrire comme une combinaison linéaire de fonctions qui vont ne dépendre plus que d'une seule variable. L'existence d'un théorème comme ça, en fait, c'est bien connu, encore une fois, et c'est exactement ce qu'on obtient dans le cas de Fourier. Ce qui est un peu plus subtil dans le cas de ce théorème, c'est qu'on peut démontrer qu'il n'y a pas besoin de prendre ρ qui est une exponentielle. On peut prendre ρ essentiellement comme n'importe quelle fonction continue. Mais le problème de la malédiction de la dimensionnalité reste tel quel. C'est-à-dire que si vous n'imposez rien sur votre fonction autre que la fonction f de x est localement régulière, c'est-à-dire localement continue, ou Lipschitz, ou un peu plus, à plusieurs dérivés qui sont bornés, le nombre de termes va exploser. Le nombre de termes va exploser, ça veut dire que le nombre de neurones de la couche intermédiaire va grandir exponentiellement comme la dimension du signal. Et donc, c'est infaisable d'un point de vue pratique d'utiliser des réseaux de neurones comme ça. Donc, ce théorème, il ne répond pas à la question. Ce théorème qui dit que les réseaux de neurones à une couche cachée sont des approximateurs universels, vous dit effectivement, vous pouvez l'approcher avec une erreur arbitrairement petite, mais encore une fois, en sous-jacent, le nombre de termes va grandir exponentiellement avec la dimension. Tout l'enjeu du domaine, encore une fois, c'est d'arriver à avoir le même type de résultat de précision, mais non plus avec un nombre de neurones qui grandit exponentiellement comme la dimension, mais un nombre de neurones qui grandit potentiellement linéaire, voire au pire d'un point de vue quadratique, mais plutôt linéaire, parce que la dimension est déjà très très grande. Donc, c'est ça qui est essentiellement fait dans les réseaux de neurones profonds, c'est-à-dire que dans les réseaux de neurones profonds, si vous comptez le nombre de variables, c'est une constante fois le nombre de coefficients dans votre signal d'entrée, donc vous n'avez pas cette explosion exponentielle. La question, et ça va être le centre donc, du sujet du cours de l'année prochaine, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que, avec ces structures profondes, on arrive à approximer des fonctions aussi riches que des fonctions qui font de la classification d'images, de la reconnaissance de paroles, de l'approximation de phénomènes physiques comme de la turbulence, physique quantique, etc. On sait d'avance que la réponse, ça ne va pas être parce que le réseau de neurones est extraordinairement puissant et peut approximer n'importe quoi. parce qu'on a des théorèmes qui nous disent, on l'a vu au début de ce cours, que si la fonction c'est n'importe quoi, c'est-à-dire typiquement une fonction qui est simplement Lipschitz régulière, alors il n'y a rien à faire, c'est impossible d'approximer la diversité de telles fonctions sans avoir une explosion de dimensionnalité, autrement dit, encore une fois, cette malédiction de la dimensionnalité. Si c'est possible, c'est que les fonctions sous-jacentes ont une espèce de régularité cachée, et une régularité cachée que le réseau de neurones a été capable d'exploiter. Et donc tout l'enjeu de la recherche sur ces réseaux de neurones, et de façon plus générale sur l'apprentissage en général, c'est de comprendre la nature de cette régularité cachée et de l'exploiter de manière à pouvoir effectivement faire une approximation avec très peu de termes et du coup de pouvoir apprendre les coefficients avec un nombre limité d'exemples et d'avoir un risque qui va converger vers le risque en moyenne parce que vous n'avez plus ce terme de fluctuation qui est totalement incontrôlé. Donc le pourquoi, essentiellement, on le comprend très mal. Donc ce sera véritablement une entrée dans les aspects de recherche qu'on va faire à ce moment-là. Mais il y a quand même des indicateurs qui permettent d'exploiter, de comprendre le pourquoi de cette architecture. Dans les réseaux de neurones, où est-ce qu'on met l'information a priori ? L'information a priori, alors, je vous l'avais dit, dans le cas des algorithmes à noyaux, l'information a priori, on le met dans le phi de x. Maintenant, les réseaux de neurones apprennent le phi de x. Donc, en apparence, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus d'information a priori. En fait, si, il y a une information a priori qui est très forte, c'est l'architecture du réseau, la façon dont le réseau est configuré, qui est en lien avec qui, et quelles sont les propriétés des poids. J'ai brièvement mentionné que dans le cas des réseaux de neurones profonds, on utilisait des convolutions. C'est quoi une convolution ? C'est un opérateur linéaire dont les poids sont invariants par translation. Donc on impose une forme de redondance très forte sur le poids qui est cette invariance par translation. Ça, c'est imposé, encore une fois, parce qu'il y a des informations a priori sur le signal. Il y a évidemment beaucoup plus de choses qui sont imposées sur ces réseaux. Et si vous regardez la recherche au cours des 5-10 dernières années sur ces réseaux, vous voyez que c'est essentiellement beaucoup une recherche sur les architectures. Une recherche sur les architectures, c'est-à-dire comprendre comment organiser l'architecture pour qu'on arrive à avoir une approximation plus fidèle de la fonction sous-jacente, par exemple, approximer efficacement des images dans ImageNet, etc. Il y a un deuxième aspect dans cette optimisation, dans cette recherche d'architecture, c'est la partie de l'optimisation. On peut avoir un réseau de neurones qui couvre une classe de fonctions qui est suffisamment large pour pouvoir parfaitement approximer la fonction idéale, mais si jamais vous n'êtes pas capable de trouver une fonction quasiment optimale dans votre classe, ça ne sert à rien. Donc il faut que le réseau soit optimisable. Le problème des réseaux de neurones, et Francis en parlera sans doute, ou peut-être, je ne sais pas, c'est que les fonctions de risque, comme on a des combinaisons linéaires de 0, elles ne sont absolument pas convexes. Il y a plein de minima locaux. Et donc tout le problème, c'est de s'assurer, certes, vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber dans le minima global parce que vous avez des minima locaux, mais ça va être de s'assurer que vous tombez dans des minima locaux qui ne sont pas trop loin du minimal global. Et ça, c'est une autre ligne de recherche qui est très importante dans ces réseaux de neurones. La grosse surprise que tout le monde a eue, c'est que ça semble marcher. Si vous regardez, encore une fois, à peu près jusqu'aux années 2010, il y avait une espèce de sagesse populaire qui consistait à dire « si votre problème n'est pas convexe, laissez tomber ». D'accord ? Parce que vous n'avez aucune idée de là où vous allez aboutir, et selon toute probabilité, vous allez aboutir dans un endroit qui est typiquement mauvais. Donc, dans le meilleur des cas, ce que vous allez essayer de faire, c'est de convexifier le problème, et de le convexifier de façon à ce que vous ayez un contrôle sur l'erreur. Dans le cadre des réseaux de neurones, on ne sait pas convexifier le problème. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a fait, par exemple, dans le cas des SVM, on a vu qu'on avait convexifié cette fonction qui n'était pas convexe initialement avec une borne supérieure qui était convexe. Là, on ne sait pas du tout le faire. Et donc, on y va, on essaye, on ferme les yeux et on espère que ça va marcher. Et encore une fois, ça semble marcher. Le fait que ça semble marcher indique que quelque part, statistiquement, doit y avoir un phénomène qui fait que, effectivement, si on configure bien le réseau de neurones, les minima locaux ne sont pas trop loin du minima global. Autrement dit, que tant qu'on est assez loin, il existe toujours une direction de descente. Pourquoi ? On ne sait pas, essentiellement. Alors, quand on ne sait pas, on essaye de simplifier. Et le cas le plus simple, c'est déjà le réseau de neurones à deux couches. Et c'est pour ça que c'est un exemple très important. C'est déjà un cas qui, en apparence, est non convexe. Là, on verra qu'on pourra le convexifier. Mais c'est le seul cas, essentiellement, qu'on arrive à bien maîtriser mathématiquement. Voilà. Je vais terminer là-dessus, donc ça va terminer le cours pour cette année, puis vous aurez le séminaire de Francis. Peut-être je vais prendre quelques questions, s'il y en a juste à la fin, à moins que... Non, on va s'arrêter là. Ok, très bien. Donc, bonne année.